Bonjour Julie Gacon. Aujourd'hui, grande question, va-t-on vers une dédollarisation du monde ?
Le mot est réapparu à l'aune des alternatives à la monnaie américaine comme moyen de change par défaut. Ces alternatives sont mises en place par les pays visés par les sanctions américaines. Or, Donald Trump en a fait un quasi automatisme de sa politique étrangère. Des dizaines de pays du monde, que ce soit l'Iran, le Venezuela, la Russie, la Corée du Nord pour ne citer que, cherchent et souvent trouvent des moyens pour contourner la monnaie hégémonique. Entre les entreprises qui décident d'exporter désormais en euros ou en yuan tout, pourvu que ce ne soit pas en dollars, et les banques centrales qui veulent réduire l'exposition de leurs réserves aux billets verts, cela suffira-t-il à affaiblir le dollar ? Bonjour Ali Laïdi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous venez de fonder l'école de pensée sur la guerre économique. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur la question que je citerai tout à l'heure. Ali Laïdi, comment le dollar est devenu la pierre angulaire non seulement de la puissance américaine, mais aussi de sa politique étrangère.
Tout simplement, il faut remonter sans doute à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où à travers la reconstruction de l'Europe et un certain nombre d'autres pays qui ont été frappés par cette tragédie, bien c'est notamment pour l'Europe le plan Marshall, à travers le dollar qu'on a relancé la construction d'un certain nombre de ces pays. Donc c'est vrai que le dollar est devenu la référence, et surtout quand en 71 Nixon décide de casser la parité dollar-or, eh bien les Américains le disent eux-mêmes, le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Et donc, à partir de là, oui, cette hégémonie du dollar s'est installée sur l'ensemble du monde et en particulier des relations économiques internationales.
Et c'est donc une arme géopolitique aussi. Quand les États-Unis imposent des sanctions à des pays, est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent le faire que sur les transactions en dollars ou sur les entreprises qui commercent en dollars ?
Alors, il y a plusieurs nexus, c'est-à-dire de liens. Lorsque les États-Unis veulent exporter leurs lois en dehors de leurs frontières, il y a le dollar, évidemment. À partir du moment où vous utilisez le dollar, les procureurs américains disent que vous utilisez une part de la souveraineté du territoire américain.
C'est l'extraterritorialité.
Voilà. Mais il y a autre chose. Il y a aussi le fait, par exemple, d'utiliser par exemple un système de transmission américain, un Gmail ou autre, qui passe par un serveur installé aux États-Unis, etc. Il y a aussi, par exemple, le fait de réexporter des technologies dans lesquelles il y a une partie de technologie américaine. C'est les fameux règlements ITAR sur tout ce qui est produit dual, à la fois militaire et civil. Donc, il faut demander aux États-Unis l'autorisation de réexporter. Et dans ces cas-là, vous tombez dans les lois américaines. Donc, vous voyez, il y a toute une panel qui permet à l'administration de la justice américaine, je précise bien l'administration de la justice américaine et non pas la justice américaine, d'intervenir en dehors de leurs frontières.
Alors pour bien comprendre comment ça se passe avec l'Iran par exemple, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Iran, sont sortis de l'accord sur le nucléaire iranien. Comment, qu'est-ce que ça veut dire exactement et surtout que vaut cette alternative qui a été mise en place en Europe par la France, l'Allemagne, ils l'ont annoncé à l'ouverture du G20 l'été dernier, ce nouveau système commercial pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran est maintenant opérationnel, ça s'appelle INSTEX. Donc voilà, comment
le principe est assez simple. Les Américains ont un certain nombre de lois qui disent vous n'avez pas le droit, vous société américaine, mais vous également société étrangère, de faire du commerce avec tel ou tel pays. Alors il y a eu l'Iran, il y a eu le Cuba, il y a eu Soudan, il y a eu la Libye, etc. au fur et à mesure d'un certain nombre de ces dernières années. Donc il y a des sanctions dites primaires qui s'appliquent uniquement à ce qu'ils appellent les US persons, donc les personnes étant en général américaines. Et puis, il y a les sanctions secondaires qui s'appliquent à absolument toutes les entreprises du monde entier. À partir du 8 mai 2018, lorsque les Américains quittent l'accord sur l'Iran, à ce moment-là, les États-Unis interdisent à toutes les entreprises du monde entier de faire du business avec l'Iran. Dans ces cas-là, évidemment, un certain nombre de pays ont décidé de ne pas respecter, même si concrètement, toutes les entreprises étrangères ont quitté littéralement le territoire iranien. Mais pour maintenir en surface cet accord, évidemment, les autres signataires, l'Allemagne, la France, la Chine, la Russie, etc., ont décidé d'essayer de poursuivre quand même le commerce avec l'Iran, parce que c'est quand même la partie sur laquelle se sont engagés ces pays en contrepartie de l'Iran cessait son programme nucléaire.
Et c'est efficace alors, INSTEX ?
Alors, INSTEX, c'est un instrument, un espèce de troc qui a été mis en avant par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, qui consistait à contourner les sanctions, mais uniquement sur le secteur des médicaments et des produits agricoles, secteur sur lequel la Cour internationale de justice a condamné les États-Unis sur l'Iran. Mais en fait, ça ne marche pas pour deux raisons. D'abord, parce que ça n'intéresse pas vraiment les Iraniens. Le problème des Iraniens, c'est pas d'acheter des médicaments ou des produits agricoles. Le problème des Iraniens, c'est de vendre leur pétrole, évidemment. Et pour l'instant, INSTEX ne compte pas acheter le pétrole iranien. Et puis, c'est encore très limité, parce que ça ne concernerait, en fait, qu'un certain nombre de petites entreprises, étant donné que les grandes entreprises, elles, ont décidé de quitter l'Iran et de n'avoir, mais vraiment, aucune relation économique avec les Iraniens, quand bien même les États-Unis autoriseraient des relations pour la pharmacie ou pour les produits agricoles. Mais il y a une telle peur qu'il y a de la surconformité, ce qu'on appelle l'overcompliance de la part de ces entreprises.
Mais donc c'est vrai que le dollar est un outil, une arme géopolitique, mais le contournement aussi, puisqu'en l'occurrence pour l'Allemagne, la France et ces pays européens, il s'agit aussi de sauver l'accord sur le nucléaire sans la participation des États-Unis. Ali Laïdi, en Russie, cette fois c'est pour se protéger aussi des sanctions américaines suite à l'annexion de la Crimée que le géant pétrolier Rosneft, par exemple, a annoncé la semaine dernière que ses exportations seraient désormais réalisées en euros et non plus en dollars. Mm-hmm. Pourquoi en euros ?
Ben parce que
pourquoi pas en yuan, par exemple ?
Il y a des contrats qui vont se faire à terme entre la Chine et la Russie sur le pétrole, qui vont se faire à la fois en rouble et en yuan. Donc l'idée, on le voit bien, c'est de devenir plus indépendant par rapport au dollar, qui est hégémonique. Hein, je veux dire, 63% des réserves des banques centrales sont en dollars, 85% sur le marché d'échange, c'est du dollar. Donc il faut trouver une certaine indépendance vis-à-vis du dollar, et on va passer donc à la vitesse supérieure. C'est ce qu'on voit très clairement depuis un certain nombre d'années entre la Russie, la Chine, l'Europe aussi, qui décide de ne plus utiliser le dollar. Rendez-vous compte qu'en Europe, on achète nos propres Airbus en dollars et non pas en euros. C'est quand même assez extraordinaire, quoi, qu'on soit arrivé là.
Quand vous demandez aux chefs d'entreprise pourquoi ils payent en dollars, qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Alors, parce que une habitude. Le marché de l'aéronautique est un marché qui a été dollarisé dès le début, etc. Donc c'est des habitudes, et parce que le dollar est liquide, il est plus facile à utiliser et à faire circuler dans le monde entier.
C'est vrai que je vous ai demandé, Ali Laïdi, pourquoi la Russie ou Rosneft n'allait pas exporter en yuan, donc la monnaie, la devise chinoise, vous la dites beaucoup mieux que moi, parce que la Chine est une alliée de la Russie, mais enfin ça aurait été beaucoup plus peut-être sensé de vous demander pourquoi ils ne payent pas en rouble et pourquoi tous les pays qui veulent contourner la monnaie américaine ne paye pas tout simplement dans leur monnaie nationale.
Parce que le dollar est une valeur refuge, c'est une monnaie liquide que vous pouvez utiliser avec des coûts de transaction les plus bas possibles. Or, si vous utilisez votre propre monnaie, vous avez des coûts de transaction un peu plus élevés. Donc, l'objectif à atteindre, qui est un objectif annoncé par Bruno Le Maire en juillet dernier, c'est de rendre la zone euro, de plus en plus utiliser l'euro dans cette zone. Et c'est aussi un objectif de la part de la Commission européenne, qui a été annoncée dès 2018, utiliser plus d'euros que de dollars.
D'ailleurs, un rapport de la Banque Centrale Européenne publié en juin nous apprenait que le rôle international de l'euro s'était renforcé, c'est-à-dire que ça part dans les réserves de change mondiales. C'est pour les mêmes raisons aussi, cette volatilité des monnaies et la stabilité du dollar qu'on voit, alors notamment dans plusieurs pays dont les populations se soulèvent contre leur gouvernement, mais sans voir de lien de cause à effet, on paye beaucoup en dollars. au Liban, en Argentine, au Venezuela, mais aussi au Cambodge, dont nous parlions hier, sont des pays qui ne peuvent pas sortir du dollar ou qui ne veulent pas.
Ah si, ils aimeraient bien sortir du dollar, sauf que quand leur propre monnaie s'écroule, évidemment, dans les relations quotidiennes, lorsqu'on va acheter son café, son thé à l'épicerie et que votre monnaie s'écroule, eh bien évidemment, vous avez le dollar qui est une monnaie de refuge, à la fois pour le consommateur, mais aussi pour le producteur ou pour le vendeur. Donc là, au fait, c'est la liquidité du dollar, sa référence, son statut mondial qui fait qu'en effet, c'est privilégié dans ces pays-là.
Et le Chili, dont on a beaucoup parlé aussi, lui est sorti du dollar. Comment il a fait ? Pourquoi il a pu ?
Quand votre économie a d'énormes difficultés et s'écroule de plus en plus, vous n'avez plus d'alternative que d'utiliser ce que vous avez. Donc c'est de sortir du dollar parce que vous ne pouvez plus emprunter sur les marchés internationaux et vous utilisez votre propre monnaie pour vous en sortir dans ces cas-là.
Bon, alors est-ce que ces décisions prises les unes après les autres contribuent à réellement fragiliser le dollar ? Est-ce que Donald Trump, en multipliant les sanctions et parfois des sanctions de 7 jours ou 8 jours comme il l'a fait contre la Turquie récemment, contribue à fragiliser le dollar ?
Oui, tout à fait. C'est les Américains qui s'en préoccupent de plus en plus. Ils voient bien que cette stratégie des sanctions fait que du coup, on pousse les autres partenaires des États-Unis à s'éloigner du dollar et à utiliser leur propre monnaie. C'est de plus en plus inquiétant et les débats montent aux États-Unis pour dire que sans doute, les Américains vont beaucoup trop loin dans ces sanctions.
Sauf que le poids du dollar dans les réserves des banques centrales s'élève à 62%. C'est le FMI qui le dit, donc il reste hégémonique pour l'instant.
Il le reste, mais la trajectoire, c'est qu'il va sans doute perdre cette hégémonie dans les décennies qui viennent.
Et quelle monnaie pourrait vraiment le concurrencer ?
À part une seule monnaie, ce sera un panier de monnaie, et évidemment dans lequel on trouvera l'euro, le yuan et le dollar toujours, évidemment.
Merci beaucoup Ali Laïdi d'avoir été avec nous ce matin. Le droit, nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes, c'est votre dernier livre paru chez Actes Sud. Et je vous souhaite une bonne journée.
Merci.